Shalom Vracha. On a dit l'autre fois, Ken, que... Je vais raconter d'abord une petite histoire pour rentrer dedans. Regardez, une fois il y avait quelqu'un qui est venu dans une pharmacie. Il a demandé au pharmacien, il lui a dit « j'ai mal aux pieds ». Alors le pharmacien lui a donné une pommade pour les pieds. Après qu'il a dit que j'ai mal au pied, il lui a dit « j'ai aussi mal, j'ai des bourdonnements dans les oreilles ». Alors le pharmacien lui donne des gouttes pour les oreilles. Après il lui dit « ma gorge, elle est en feu ». Alors il lui donne un sirop pour la gorge. Après il dit « j'ai aussi mal au ventre ». Alors il lui emmène des cachets pour le mot de ventre. Après il dit « mes yeux me piquent, j'ai mal aussi aux yeux ». Alors il lui emmène des gouttes. Alors petit à petit, sans arrêt, il dit « j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal ». Et le pharmacien, il lui amène encore des médicaments. Jusqu'à qu'au bout d'un moment, le pharmacien, qu'il y avait une montagne de médicaments ici, lui dit « dis-moi, où t'as pas mal ?» Alors cette personne lui dit « j'ai mal de partout ». Alors le pharmacien lui dit « pourquoi tu m'as pas dit depuis le départ que t'as mal de partout ?» Il a enlevé tous les médicaments, il lui a dit « voilà, ça c'est un médicament, ça soigne tout ». On a lu dans la paracha de la Shavua, paracha de Imbechukotai, Beha Bechukotai, il est écrit comme ça « Imbechukotai telechu, si vous allez faire les commandements, Venatati shalom baaretz, Akadosh Baruch Hu nous promet qu'il y aura le shalom en Israël, ushraftem ve'en macharid, ça veut dire vous allez vous coucher et sans avoir aucune peur, tout ça va aller bien, il y aura toutes les bénédictions. Ça dépend une seule chose, im bechukotai telechu. Malheureusement ici en Israël, des fois il y a tellement des problèmes de, ils ont amené aujourd'hui un président américain, soi-disant ça va changer quelque chose. Il y a tellement plein de problèmes. Il faut savoir qu'une seule chose. La Torah elle nous dit, vous voulez la bénédiction de 100%, im bechukotai telechu. Si vous allez faire les commandements, il y aura la bénédiction. Tant que vous n'êtes pas avec, vous n'êtes pas en train de chercher que la bénédiction dans la Torah Kedosha, en faisant la Torah et les mitzvot, il n'y aura pas de bracha. Ça va servir tout ça à rien. Il y a un autre machal du Rav Galins qui dit comme ça. Vous savez que dans le Negev, c'est le désert, il y a des bédouins. Une fois, il y avait un car qui est venu là-bas dans le désert chez les Bédouins, il leur a dit, venez, je vais vous prendre à Tel Aviv faire un yom de tioul. On fait un tioul à Tel Aviv. Ils sont arrivés à Tel Aviv, on les a amenés là-bas dans un restaurant. Tous les Bédouins, ils sont rentrés dans le restaurant, ils ont mangé, et ils ont vu que dans le restaurant, quand ils partaient des toilettes, il y avait des robinets là-bas. On ouvre le robinet, il y a de l'eau qui coule. Ils étaient très étonnés, jamais ils ont vu quelque chose comme ça, un robinet. Quand ils sont sortis du restaurant, à côté du restaurant, il y avait un magasin qui vend des accessoires de maison. Et vous voyez qu'on peut acheter là-bas des robinets. Tous ces Bédouins, ils ont acheté des robinets. Ils se sont dit, quand on va rentrer chez nous à la maison, on va mettre ces robinets dans notre tente et on va avoir de l'eau. Chacun, donc, il a acheté 5 robinets, 10 robinets, 12 robinets, 7 robinets. Ils rentrent chez eux à la maison. Chacun, il essaye de coller le robinet dans sa tente. Ils essayent de tourner le bouton et rien du tout. Quelqu'un leur dit, peut-être il faut amener ici un plombier pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas de l'eau. Shalom Benjamin. Alors, ils font amener un plombier et ils lui disent, voilà, on a acheté des robinets, mais ça ne marche pas. Alors, lui, il voit de la manière comment ils ont collé les robinets. Il a vu qu'ils ont pris de la colle, ils ont collé les robinets dans leur tente. Il a commencé à rigoler sur eux, il a dit, tant que vous n'allez pas vous attacher à la source, à le mobile artiste, ça veut dire le grand tuyau qui amène de l'eau, okay? Alors bien sûr qu'il n'y aura pas de l'eau. Il faut savoir, nous, toutes les bénédictions, tout ce qu'on veut réussir dans la vie, on a une obligation d'être attaché à la Torah. Ça n'existe pas de réussir quelque chose sans être attaché à la Torah. Ça n'existe pas. Le livre Chovot et Levavot, il demande une question très très belle, il pose une question très très belle. C'est un livre qui est écrit il y a 1000 ans en arrière, Rabbeinu Bachaye, donc il pose une question. Comment on sait si de l'argent c'est une bracha ou klala? Est-ce que l'argent c'est une bénédiction ou c'est une malédiction? Comment on sait? Il pose cette question-là et répond d'une façon très très simple. On peut savoir tout de suite si l'argent c'est une bénédiction ou une malédiction. Comment? Ça dépend de ce que la personne elle fait avec l'argent. S'il l'utilise pour faire une vie de Torah, il a de l'argent, mais il étudie la Torah, il fait les commandements, il fait les mitzvot, c'est une certitude que l'argent qu'il a c'est une bénédiction. Si il a cet argent-là, mais l'argent, il l'utilise pas pour faire les mitzvot. Justement, on lui a donné cette possibilité, mais lui, au contraire, il fait avec ça des choses qui sont contre la Torah. C'est de l'argent qui est une malédiction. L'autre fois, on a parlé, okay, et Yoel, bon, Hachem, m'a demandé une très très belle question. Comment on arrive, okay, à changer notre attitude? Comment on arrive à changer, nous, en profondeur à l'intérieur de nous? Alors écoutez bien, le Rav Volbe Zatzal l'idée que dans chaque avoda ruchanit, ça veut dire si quelqu'un, il veut changer. C'est sûr et certain, bon, Hachem, quelqu'un, il arrive dans une yeshiva. La chose la plus simple à faire dans une yeshiva, soi-disant, il dit, je suis Baal Shuva, je change, c'est de changer ses habits. À partir de maintenant, il va faire grandir un peu la barbe, il met une kippa, il met une chemise, et soi-disant, car c'est un Baal Shuva, ça, c'est la chose la plus facile. La chose la plus difficile à faire, c'est de changer aussi notre intérieur, à l'intérieur de nous. Et si on veut arriver, dans, peu importe dans quel travail, peu importe dans quel domaine qu'on veut changer, il faut faire du travail. Ça n'existe pas arriver à un résultat sans travailler et sans travailler sur nous-mêmes. Il y a une histoire qui est très connue dans une yeshiva. Il y avait un bachour yeshiva et il est parti voir le stipeler. Il lui a dit, voilà, moi, j'en ai marre dans la yeshiva où je suis, j'aimerais bien changer de yeshiva. Qu'est-ce que vous me conseillez? C'est bien de changer de la yeshiva ou il vaut mieux que je reste dans cette yeshiva-là? Qu'est-ce que je dois faire? Le stipeler, il lui a dit, répète chaque chose 10 fois. Et cette personne-là, il est sorti et il était étonné. Il a demandé une question, il n'a pas reçu la réponse. Il est parti voir le Rav Chaim Kanievski, le fils du stipeler, Shlita. Il lui a demandé, j'ai demandé une question et je n'ai pas compris la réponse. Il lui a dit, le Rav Chaim, c'était quoi la question? Il lui a dit, voilà, je ne suis pas content à la yeshiva. Je doute, je suis dans un safek, dans un doute. Est-ce que je dois changer de yeshiva ou je reste ici? Et le stipeler, il m'a dit, révise chaque chose 10 fois. Alors, je n'ai pas compris ce que j'ai demandé et c'est quoi cette réponse-là? Il lui a dit, quoi, tu n'as pas compris, c'est tellement simple. Tu as dit que tu veux changer de yeshiva. Automatiquement, quand quelqu'un veut faire un changement, ça veut dire que tu n'as pas assez de simcha. C'est sûr et certain que tu n'as pas de simcha. Pourquoi? Parce que essaie de voir si vraiment tu étudies bien. Qu'est-ce qu'il t'a dit le stipeler? Révise chaque chose 10 fois. C'est une certitude de 100%. Quand quelqu'un il révise son limoud 10 fois, tellement il va le connaître bien, automatiquement il va avoir de la simcha. Et s'il va avoir de la simcha, il ne va pas avoir besoin d'aller changer une yeshiva, d'être dans ce doute-là, je ne change pas de yeshiva. Peu importe l'endroit où on étudie, pourvu qu'on étudie, ça veut dire de toute façon on étudie, alors il faut étudier, Bezrat Hashem, avec sérieusité, il faut l'étudier d'une façon que ça va être clair, il faut réviser, il faut étudier, faire souvent des chazarot, que c'est rien comme ça qu'on acquit la Torah, on arrive à comprendre la Torah. J'ai parlé l'autre fois, j'ai raconté que le Rav Volbe dans son livre, Aleshur, il dit comme ça, souvent, on veut exploiter toutes les forces qu'on a à l'intérieur de nous. 95% de les forces, ils sont endormis complètement. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui utilisent leurs forces. En général, les personnes, les gens, ils n'arrivent pas à utiliser toutes leurs forces. Et le Rav Volbe Zatzal, il a dit quelque chose comme ça. Il y a des gens, ils disent, j'aimerais bien Siyata Dishmaya, j'aimerais que Hachem, il m'aide. Mais Hachem, il dit à cette personne, je veux bien t'aider, mais d'abord, je t'ai donné tellement de forces. Est-ce que tu as utilisé les forces que je t'ai données? Les forces que je t'ai données, ce n'est pas une siyata d'Ishmaïa. Pourquoi tu n'utilises pas d'abord les forces que je t'ai données? Utilise les forces, okay? Utilise les forces, et après je vais t'aider. Mais il faut être akshan. Le Gaon de Vilna, une fois quelqu'un lui a demandé comment on peut réussir dans la Torah, il lui a dit 2 mots, et il faut savoir que c'est avec ces 2 mots, on peut arriver très 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 loin dans tous les domaines. C'est quoi les 2 mots? Akshan, yatsliach. En français, c'est 3 mots. Celui qui est en plusieurs mots, celui qui est têtu, il va réussir. Il faut rien qu'être akshan, aller jusqu'au bout. Il y a un verset dans Mishlei, il dit comme ça. Ivelet Adam tesalef darko, va l'Hashem izaf libo. Je traduis le verset. Ivelet Adam, ça veut dire quoi? Une personne, elle fait des bêtises, alors automatiquement, Ivelet Adam tesalef darko, ça veut dire, ça va, il va mal tourner, va l'Hashem izaf libo. Et il va être en colère contre Hachem. Hachem, pourquoi tu ne m'as pas aidé? Ça veut dire quoi? Quelqu'un, il prend un chemin qui, normalement, il pensait que c'est le bon chemin, mais en fait, on va voir tout de suite pourquoi ce n'est pas un bon chemin. Après, il se met en colère contre Hachem. Le Gaon de Vilna, il dit, de qui on parle dans ce verset-là? On parle de quelqu'un qui est en train de prendre un niveau que ce n'est pas son niveau. On n'a pas le droit de sauter des échelons dans Avodat Hachem. Ça veut dire chacun, dans son échelon où il est, il faut qu'il le travaille très très bien, il faut qu'il va avoir la simra, après il peut passer à une autre étape. Mais tant que, par exemple, quelqu'un, il veut arriver à un niveau, il veut sauter les échelons, il se prend déjà dans un niveau qui est très 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 haut, alors Hachem ne va pas l'aider. Automatiquement, il ne va pas avoir Siyata Dishmaya, parce que ce n'est pas le chemin. Automatiquement, il va être dans ce niveau-là. Ce n'est pas du tout le niveau que Hachem veut qu'il va être là-bas. C'est un conseil 100% du Yetzer Hara. Comment on sait, c'est quoi exactement notre niveau? Comment on sait? Tout de suite, vous allez voir tout de suite. Le Baal Shem Tov rajoute qu'une personne qui se prétend d'être dans un niveau, il n'est pas du tout encore dans ce niveau-là, mais il pense, il fait montrer à tout le monde que soi-disant, il est dans ce niveau qui est très élevé, c'est plus haut de son niveau normal, il est en train de rater deux choses. Il est en train de rater ce niveau-là parce que ce n'est pas le niveau, ce n'est pas pour lui. Hachem ne lui a pas demandé d'arriver là-bas, mais non, c'est peut-être plus tard, mais pour l'instant, sauter des échelons, ma pitom. Il est en train de rater ce niveau-là, il est en train de rater le niveau où il devait être au départ. Parce que puisqu'il a sauté, il veut arriver direct dans un niveau qui est très élevé. Comment on fait, comment on va savoir dans quel niveau on est? On a dit comme ça, quand on est dans un certain niveau, tant qu'on a la simcha, on est dans le calme, on est content, okay? Ça veut dire ça, c'est notre niveau. Une fois qu'on commence à faire des choses, on fait des mitzvot, on fait la Torah, on n'a pas la joie. On fait dans le stress, dans le nerf, c'est sûr et certain que ce n'est pas notre niveau. Il faut rester dans le niveau où on était et le faire, l'appliquer, apprendre bien, 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 bien. Et rien qu'après, on rajoute sur nous des madrigotes. Il y avait une histoire avec un Baal Tshuva. Il y avait quelqu'un, il est parti chez un des rabbins de la chassidut de Tchernobyl, en Russie. Quelque part, il y a 100 ans, cette histoire. Il lui a dit, c'est un juif qui était très, 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 très loin. Il lui a dit, voilà. Je viens de découvrir le judaïsme, que je suis juif, je n'ai pas du tout vécu jusqu'à maintenant comme un juif, je n'ai rien fait. Est-ce que je peux faire tshuva? Alors cette personne lui a dit, ton cas il est tellement grave, si tu n'as rien fait jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Moi je ne connais pas, mais va voir le rav qui s'appelle le rav de Rougine. Va voir le rav de Rougine, peut-être il va te trouver une façon comment faire tshuva. Il est parti le voir, il lui a dit, voilà, Gvadarav, jusqu'à maintenant, je suis né juif, mais j'étais loin, 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 ni Shabbat, ni Kippour, ni manger caché, rien du tout, je faisais rien. Et je vais faire tshuva. J'ai une possibilité de faire tshuva. Le Rav Tututu lui a dit, il n'y a pas quelque chose de plus simple que ça de faire tshuva. Comment je vais faire tshuva? Et lui a dit, c'est très, très simple. À partir de maintenant, tu vas essayer d'appliquer à faire les mitzvot. La tfila, tu vas commencer à étudier un peu la Torah. Petit à petit, tu vas faire. Et surtout, ta tshuva, c'est comment? Tu fais tout sans se stresser, sans se précipiter. Tu fais tout dans le calme et dans la joie. Et ça, c'est ta tshuva. Cette histoire-là, je l'ai amenée dans ce livre-là. Il faut savoir que c'est très, 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 très vrai parce que des fois, souvent, on rentre dans une routine. Il n'y a pas pire que la routine. Il faut sans arrêt de se renforcer dans la emouna. Vous savez qu'une des questions qu'on demande là-haut à la personne, c'est « Nasata benatata beemouna ». Ça veut dire quoi? Est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu t'es comporté dans ta vie, Ken? Be'emouna, ça veut dire quand tu as acheté quelque chose, tu as vendu quelque chose, est-ce que c'était be'emouna? Les chassidim, ça veut dire est-ce que c'était sans tricher, sans voler? Ça, c'est la façon simple d'expliquer. Les chassidim, ils ont l'habitude de demander cette question-là d'une autre façon. Est-ce que tu t'es renforcé tous les jours dans ta emouna? Est-ce que tu t'es renforcé tous les jours dans ton travail d'Hachem? Nasata venatata be'emouna. Est-ce que tous les jours tu te demandais comment je peux être un peu plus ma'amin, comment je peux être un peu plus collé à Hachem? C'est ça, en fait, la question de Sata Venatata Bemuna. L'autre fois, on a parlé un peu de les midot, de les lignes de conduite et comment on arrive à exploiter nos forces. Vous savez que maintenant, Or HaChaim HaKadosh, il dit la raison, comment ça se fait que quand on est sorti de Eretz Mitzrayim, Hachem ne nous a pas donné la Torah directement. Il fallait attendre 49 jours jusqu'à le 50e jour. Et on dit, Or HaChaim HaKadosh, il dit que c'est sûr et certain qu'il ne pouvait pas, Hachem, il pouvait donner. Mais en fait, qu'est-ce qu'il voulait qu'on va faire pendant ces 49 jours? On se prépare. Parce qu'il faut se préparer pour Kabbalat HaTorah. C'est quelqu'un, il doit, surtout le travail en ce moment, c'est de se réparer à l'intérieur de nous. Se renforcer, mais midot, ça veut dire midot tovot, ça veut dire de renforcer dans tout. Comme ça, on va être apte de recevoir la Torah. Il y a une mitzvah qui est très difficile à faire, mais on va voir qu'est-ce que la halakha dit dans ce cas-là. Il y a la mitzvah, dans Parashat Kedoshim, on a lu comme ça. « Lo tisna et achicha bilvavcha ». Tu n'as pas le droit de haïr ton frère dans ton cœur. Comment on arrive à faire cette mitzvah-là? D'abord, je vais raconter une petite histoire. C'est écrit dans la Gemara, Masechet Brachot. Il y avait, dans le quartier de Rabbi Meir, il y avait des voyous. Rabbi Meir, il voyait qu'il y avait des voyous dans son quartier, ils priaient qu'ils vont mourir. Sa femme, elle s'appelait Bruria, elle a dit, Rabbi Meir, pourquoi tu pries qu'ils vont mourir? Tu sais que dans le livre de Tehilim, le mizmor Kuf Dalet, le chapitre Kuf Dalet qu'on a l'habitude de le lire, Rosh Chodesh, le dernier verset dit là-bas, Itamuchataim min haaretz. Ça veut dire quoi? À la fin des temps, okay? Il n'y a pas écrit Itamuchotim. Il n'y a pas écrit qu'à la fin des temps, quand le Mashiach va venir, il n'y aura plus des gens qui font des fautes. Il est écrit que quand le Mashiach va venir, Itamuchataim min haaretz. Il n'y aura plus des péchés. Donc de Bruria, alors lui, il a prié, Rabbi Meir, il a prié, et ils ont fait tshuva. D'ici, on a pris un très, 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 très grand principe. Qu'il faut toujours séparer. Par exemple, quelqu'un, Chas v'Shalom, il nous a fait du mal. On a une obligation de séparer entre la personne elle-même et le fait de ce qu'il a fait. Comme par exemple un enfant, il joue, il casse une fenêtre. On déteste l'enfant, on va avoir de la haine pour l'enfant, c'est sûr et certain que non. On sépare entre l'enfant et le fait de ce qu'il a fait. Il faut toujours séparer. Ben ha'oseh v'ha'maaseh. Arshav. Dans la mitzvah de Lot Isnet Achicha Bilvavcha, il y a un commentaire extraordinaire. Il s'appelle Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. C'était le plus grand éducateur en Allemagne il y a à peu près 160 ans en arrière. Il a un chumash extraordinaire. Et là-bas, il explique comment il faut faire les mitzvot dans le cœur. Parce que vous savez, Ken, c'est beaucoup plus facile de faire les mitzvot ma'asiyot, ça veut dire les mitzvot qu'on fait par exemple avec les mains. Par exemple, on met les tefillines, on prend le lulav, on construit une soukha. Ça, c'est facile à faire. Mais il y a une grande partie dans l'ayahadout, c'est de quoi? C'est de faire aussi les mitzvot dans le cœur. Comment on arrive à faire les mitzvot dans le cœur? Et comment, par exemple, la mitzvah de Lot Isnet Achicha Bilvavcha, c'est une mitzvah, on n'a pas le droit de haïr notre frère dans le cœur. Il vient le Rav Hirsch et il explique comme ça. Il faut faire attention à ce qui est écrit dans le pasouk. Le pasouk, il dit, Lot Isna, tu n'as pas le droit de haïr, et Achicha Bilvavcha. Le Rav Hirsch, il explique comme ça. Tu n'as pas le droit de haïr ton frère. Le mot Achicha en hébreu, vous savez ce que ça veut dire? À part « ach », ça veut dire quoi? Le mot « achicha » en hébreu, ça veut dire, ça vient du mot « me'uché ». C'est quoi « me'uché » ? « Me'uché », ça veut dire « il est associé avec toi, il est attaché à toi ». Ça veut dire « ton frère, l'autre, tu n'as pas le droit de haïr un juif dans ton cœur ». Si c'est « il nous a fait un dommage d'argent », on a le droit de le mettre au tribunal. C'est sûr et certain, « bedin rabbani », oui. Mais on parle ici, par exemple, quelqu'un nous a fait du mal, par exemple, il a parlé du mal sur nous, il s'est mal comporté avec nous, quelque chose comme ça, il n'y a pas ici un problème d'argent. Comment on fait à enlever un sentiment qu'on a à l'intérieur de nous? Il faut savoir que ce n'est pas chassidut, c'est une mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah d'oraita. De la même façon qu'on ne va pas s'approcher à quelque chose qui n'est pas kasher, aussi il faut savoir qu'il y a des choses dans le cœur, on a une obligation de contrôler nos sentiments. Comment on arrive à faire ces choses-là? Alors, puisque le verset dit « Lot isna et achicha bilvavcha », tu n'as pas le droit de haïr ton frère, puisque le Rav Hirsch, il l'explique comme ça, puisque peu importe la personne ce qu'il a fait, il est encore considéré comme ton frère. Et puisque vous avez le même père, pour notre papa, okay, il faut enlever la haine qu'on a à l'intérieur de nous. Puisqu'on a le même père. C'est comme par exemple un papa, il a deux enfants qui se disputent. Il n'est pas content le papa. Il ne veut pas que les enfants ils vont se disputer. C'est les enfants du père. Alors pareil, exactement, à Kadosh Baruch Hu, il nous a donné cette mitzvah-là, il nous dit, tu n'as pas le droit de haïr ton frère dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Il faut faire une reproche. C'est quoi cette mitzvah-là? Il faut toujours trouver le moment pour faire la reproche. Il ne faut jamais au moment de la dispute de faire la reproche, ça va rentrer d'ici, ça va sortir de l'autre côté. Il faut trouver le bon moment pour faire la reproche. Et bien si, à Adinout. Le Rav Hirsch, il dit que dans ces mitzvot-là de la Torah, HaKadosh Baruch Hu, il veut qu'on va l'écha'abed nos regashot. Ça veut dire quoi? On va contrôler nos émotions. Et par exemple, si on a une mauvaise marche, une mauvaise pensée qui vient dans la tête, on n'a pas le droit de la laisser. Ça veut dire quelqu'un, il a une mauvaise pensée dans la tête, automatiquement, il doit l'écarter complètement. Il doit tout de suite penser à quelque chose d'autre. Le Messilat Yesharim, hier c'était l'Aïloula du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Une fois il y avait quelqu'un, il a écrit un commentaire sur un livre du Ramchal. Le Rav Friedlander, il y a 50 ans, il l'a envoyé chez un Rav à Haïfa pour lui demander une lettre d'approbation. Et ce Rav-là s'appelait le Rav Yoel Klop, c'était un grand Mekoubal à Haïfa, il y a à peu près 50 ans, 60 ans. Il a dit que sur le Ramchal, on peut dire sur lui, il était tellement élevé, tellement élevé dans la Torah, on peut dire qu'il était présent quand Hachem il a créé les univers. Il était tellement élevé, on peut dire que sur lui, il était présent quand Hachem il a créé tous les univers, il a vu ces choses-là. Le Ramchal, il a dit ces mitzvot-là que dans le cœur, okay, c'est mitzvot melech. Ça veut dire qu'il faut le faire parce que Hachem il a ordonné. Même si, par exemple, si quelqu'un il a encore qu'il a ce sentiment-là, ça veut dire un sentiment de haine, comment on arrive à enlever ce sentiment-là? Alors, comme on a dit tout à l'heure, pour Hachem, il faut enlever ce sentiment-là. Donc, pour Hachem, il faut enlever ce sentiment-là. Et il dit qu'en fait, ce sentiment, il arrive, il se trouve chez quelqu'un encore qui n'est pas encore, il n'est pas rentré encore dans le monde de la Torah. Quelqu'un encore, il n'est pas rentré encore à fond dans la Torah. Mais quand quelqu'un, il rentre dans la Torah, il va apprendre petit à petit à que ses lignes de conduite, ils vont être affinées, ils vont être adinimes, ils vont être adinimes. Et petit à petit, Ken, il pourra se contrôler l'atla dans le cœur. On a dit tout à l'heure avec Yoel, Ken, il a demandé une question, comment on arrive à se contrôler encore. Il y a encore quelque chose qui est très important. C'est que sans travail spirituel, on n'arrive à aucun degré. Il faut travailler sur nous-mêmes. Il y a encore quelque chose qui est très, très, très important. Ken. On a dit tout à l'heure que dans le niveau où on est, Ken, il faut le faire toujours avec la simcha. Quand on fait un travail sans simcha, c'est bien, c'est important, mais c'est aucune valeur quand on fait la même chose avec la simcha. La simcha, dans les livres, il y a écrit comme ça. Où on reçoit plus de salaire, okay? Sur quoi on reçoit plus le salaire? Sur le fait de faire la mitzvah ou sur la simcha qu'on a eue dans la mitzvah? On reçoit plus de salaire. Qu'est-ce que vous dites? Sur la simcha. Et peut-être j'ai dit ça l'autre fois. Le Chida, il nous dit quelque chose comme ça. Il faut savoir, au nom du livre Zera Berech, il dit comme ça. Le salaire des mitzvot, on reçoit Ba'olam Haba. On ne reçoit pas le salaire de la mitzvot Ba'olam Hazeh. Mais quand quelqu'un il fait une mitzvah Besimcha, le salaire de la mitzvah, le salaire de la simcha, on reçoit déjà Ba'olam Hazeh. Il y a une petite histoire, on a lu dans Parashat Bechukotai, des commentaires, ils demandent comment ça se fait qu'on fait des mitzvot, il y a écrit qu'il faut faire les mitzvot, il faut étudier la Torah. Pourquoi il n'y a pas écrit le salaire que la Neshama elle reçoit, Ba'olam Haba? Pourquoi? Bon, il n'y a pas écrit dans la Torah qu'il y a un salaire, le Olam Haba. Ce n'est pas écrit. Il y a écrit, le Rambam dit que toutes les bénédictions, que si on va faire les mitzvot, c'est pour ce Olam Hazeh. On va avoir la bénédiction, la parnassa, la santé, le shalom bayit, le shalom, on va avoir tout pour ce Olam Hazeh. Il dit parce que le Rambam dit comme ça, les Chachamim toujours, pourquoi ils voulaient, c'est quoi leur souhait, l'Olam Haba en fait c'est quoi? C'est la possibilité, okay, c'est la possibilité déjà, dans Ba'olam Hazeh, okay, d'avoir la tranquillité pour faire les mitzvot. L'idéal de tout, c'est d'avoir une tranquillité pour faire les mitzvot. Le Chafetz Chaim lui répond d'une autre façon. Il dit comme ça. Il y avait une fois une histoire. Un roi, il est parti une fois faire la chasse, okay, avec ses cavaliers. Ils sont partis dans une forêt, ils sont rentrés dans une forêt. Et le roi, il était tellement content, il était avec son fusil. Et il y avait des lapins, il tirait sur les lapins, il était tellement content. Et il est rentré plus, avec son cheval. Il marchait sur son cheval d'une façon très, très, très vite, jusqu'à que ses soldats qui étaient derrière lui, okay, ils l'ont perdu. En plus, le roi, il est rentré dans une forêt. La nuit, elle commençait à tomber. Et ces soldats, ils ont vu qu'ils ont perdu le roi. Et le roi, tellement, il partait tellement, tellement vite sur son cheval, derrière un lapin, tout d'un coup, il se cogne contre une branche, il reçoit un coup ici terrible et il tombe complètement du cheval. Les soldats qui l'ont perdu, ils ont dit, on va rentrer chez nous dans le château, on va envoyer un télégramme que celui qui a trouvé notre roi, il va recevoir un très, très grand prix. Et ils rentrent chez eux, ils envoient un télégramme, celui qui a trouvé le roi, il va recevoir un très, très, très grand prix. Le lendemain matin, il y a un paysan qui se promène, okay, il y a un paysan qui se promène dans la forêt. Il est avec son cheval, il est en train de tirer son cheval, et juste, il arrive dans l'endroit où il y avait ce roi-là qui était complètement par terre, il était endormi complètement, il était blessé, il avait énormément de sang sur son front, tous ses habits de royauté, ils étaient tous sales. Alors, il met sa main sur le cœur, il voit que cet homme-là, il est vivant. Tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? Je vais l'amener chez moi dans le village, je vais m'occuper de lui. Il ne savait pas que c'était le roi. il le fait monter sur le cheval et il le fait amener dans le village. Dans le village, tous les gens ils disent « Ah, qu'est-ce que t'as amené ? C'est quoi ces nouvelles-là » Alors, tout de suite, quelqu'un lui dit « Eh, tu sais que t'as amené ici ?» C'est la personne qui lui a dit, c'était celui-là qui avait le bureau de poste. Il lui a dit « Tiens, ce matin, on a reçu un télégramme de la ville capitale. Ils nous ont dit que le roi, il était perdu. Apparemment, ça, c'est le roi. T'as trouvé le roi. T'es devenu très, très, très riche. T'es devenu millionnaire. » Il lui dit « Ah bon ? Ouais. » Bon, il le fait rentrer chez lui à la maison. Tout de suite, il dit à sa femme « Amène de l'eau chaude. » Il a pris des bandages. Il a commencé à lui nettoyer. Il lui a bobiné la tête. Il a mis des bandages. En même temps, la personne qui avait le bureau de poste, il envoie un télégramme à la ville. Là-bas, il leur dit « On a trouvé le roi. Il se trouve dans tel village. » Là-bas, ils étaient très contents. En plus, il leur a dit « Il est blessé. Amenez avec vous un docteur. » Dans la ville capitale, ils étaient très contents. Tout de suite, ils envoient à la Merkava, la charrette, avec les docteurs, avec des soldats pour aller chercher le roi. Ils arrivent jusqu'à l'endroit de le village. Ils demandent où il se trouve le roi. On lui dit, voilà, dans telle maison. Ils rentrent dans la maison là-bas. Ils voient que le roi, il est là-bas. Il est couché sur le lit. Tout de suite, il y a un médecin qui vient. Il descend tout de suite. Il lui change les bandages. Il lui met des crèmes, tout ça. Et après, les soldats, ils lèvent le roi et ils le mettent dans la charrette. Ils disent merci beaucoup aux paysans et ils s'en vont. Alors, ce paysan-là, il se dit... Ils m'ont dit de l'argent, 1 million, j'ai gagné tout ça. Où est l'argent? Où est tout ce qu'ils ont promis? Alors la personne du bureau de poste lui dit, non, t'inquiète pas, ils sont sérieux, c'est le roi, c'est la royauté, t'inquiète pas, sûrement tu vas recevoir quelque chose. Le lendemain, il y a un cavalier qui arrive dans le village. Le cavalier, il arrive, il dit, où est la personne qui a trouvé, la maison de la personne qui a trouvé le roi? Lui dit, voilà la maison là-bas, il tape à la porte là-bas. Il lui dit, c'est vous qui vous avez trouvé le roi? Il lui dit, oui. Alors il lui dit, bravo, kol hakavod. Il sort de sa sacoche, il lui donne deux choses. D'abord, c'est un parchemin, en plus une enveloppe. Il ouvre le parchemin, le cavalier lui dit, voilà, on vous remercie infiniment, vous avez sauvé la vie du roi, vous êtes devenu quelqu'un qui est très important, ça c'est pour vous. Et à part ça, il lui donne une enveloppe et il s'en va. La personne du bureau de poste, juste en ce moment-là, il arrive. Alors le paysan, il ouvre l'enveloppe. Pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, il voit que dedans, il y avait un chèque. De sa vie, il n'a pas vu c'est quoi un chèque. Il tourne le chèque des deux côtés, il ne sait pas c'est quoi ce papier-là, il demande à celui-là, le bureau de poste, où est l'argent? Il dit, ben voilà, l'argent il est là. Oh, l'argent, ben voilà. Lui, il avait l'habitude de l'argent, c'est rien que c'est de l'espèce, c'est des billets d'argent, c'est des pièces. Il lui dit, mais où l'argent? Il lui dit, ben voilà, ce que tu es en train d'attraper maintenant, c'est de l'argent. Mais comment? C'est un bout de papier, ça ne vaut rien du tout. Il a dit, non, ça vaut énormément. Regarde, il y a écrit ici, 1 million de roubles. Tu es devenu un millionnaire comme... Il n'y a même pas une personne dans le pays qui est riche comme toi. Et où il est cet argent-là? Il a dit, il faut aller dans un guichet de banque, sérieux. Il a dit, si je viens chez toi dans ton bureau de poste, il savait qu'il avait un petit guichet là-bas, une petite monnaie. Je peux recevoir cette somme? Il a régulé, il a dit. Même tous les villages de tout le pays ensemble, on n'a même pas un dixième de tout ce qui est écrit dans cette somme-là. Si tu veux vraiment cette somme-là, il faut aller à la banque principale dans la ville capitale. Là-bas, tu vas rentrer à la banque, tu vas avec des valises, et là-bas, ils vont te remplir tes valises avec tout ce qui est écrit dans ce chèque-là. Le Hafetz Chaim, il a dit pareil. Quelqu'un, il veut le salaire, ben, on l'a masé. Il a fait des mitzvot, il veut le salaire ici. Mais il est pareil comme ce paysan-là. Pourquoi? Il n'arrive pas à comprendre que le salaire de l'émission, c'est quelque chose qui est tellement, tellement, tellement élevé. Hein? On n'a pas ici la capacité de comprendre c'est quoi le salaire de l'émission. Si on veut l'émission, bon, on est comme ce paysan-là qui ne comprend pas exactement c'est quoi le salaire de l'émission. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Et les commentaires disent c'est pour ça que dans la Torah, il n'y a pas écrit le salaire de la mitzvot. Bon, là, Mabah, le Gan Eden, ce n'est pas écrit parce qu'on n'a pas les outils pour comprendre ces choses-là. Il y a des questions? Quelqu'un, il a lu le livre? Vous avez lu un peu le livre? Comment c'est? Ça va? J'ai eu un peu des commentaires sur le livre. Ken, quelqu'un il m'a dit, depuis que le livre est rentré chez moi à la maison, j'ai des problèmes de Shalom Bayit. J'étais très étonné, je lui ai dit, pourquoi problème de Shalom Bayit? Il m'a dit, sans arrêt, je me dispute avec ma femme, qui c'est qui va lire le livre? Il y a une autre personne, il m'a appelé, il y a 2-3 jours, il m'a appelé à 10h30 le soir, il m'a dit, heureusement que tu as le livre, que tu as écrit le livre. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, le livre, il parle tellement de Emouna, et comme j'ai dit tout à l'heure à Yoël, c'est un livre de travail, c'est des exercices, c'est pas un simple livre qu'on lit, c'est des exercices, c'est comment on peut les appliquer dans la vie de tous les jours. Alors il m'a dit comme ça, qu'il était à fond, il a plongé complètement dans le livre, il a reçu une mauvaise nouvelle, qu'il était en chidouch avec une fille, et la fille justement, elle lui a envoyé un message que ça y est, elle est plus intéressée. Il m'a dit, heureusement que j'ai lu le livre à ce moment-là, et j'ai reçu ce message-là à ce moment-là. Si j'aurais reçu ce message-là dans un autre moment dans la journée, oi va voir ce qui aurait passé. Mais là, à ce moment-là, j'étais tellement dans ces textes-là et tout ça, ça m'a tellement renforcé que, bon, Hachem, ça s'est bien passé. Une autre femme, elle m'a dit qu'elle a passé 3 heures à lire le livre avec son mari Shabbat. Ils ont passé un Shabbat extraordinaire. Pourquoi ? Parce que souvent dans ce livre-là, Ken, je parle énormément de la Neshama et comment que la Neshama, elle doit être contente, comment on arrive à avoir Bitachon dans Kadosh Baruch Hu. Et c'est des conseils qui sont applicables. Donc, Bezrat Hashem, ça renforce ces choses-là. Hein ? Hors de question de lire un livre dans ce style-là d'un coup. Comme j'ai dit tout à l'heure, regardez. Rabbi Israël Salanter, c'est un grand maître du Moussar. C'est un des maîtres du Chafetz Chaim. Et lui, il nous a dit quelque chose comme ça. Il y a ce qui s'appelle les kochot kehim, les kochot behirim. Ça veut dire quoi? Lui, en fait, il nous a dit que dans le langage d'aujourd'hui, il y a ce qui s'appelle en hébreu le muda et le tat muda. Muda, c'est ce qu'on a dans la tête, les choses qu'on comprend. Le tat muda, c'est les forces qui sont cachées à l'intérieur de nous. Rabbi Israël Salanter, lui, il nous a dévoilé la méthode, okay, comment réveiller les forces qui sont à l'intérieur de nous. On apprend beaucoup, énormément, okay, d'abord de l'histoire qui est maintenant avant Shavuot, on étudie souvent l'histoire de Rabbi Akiva et Rachel. Rabbi Akiva, Rachel, c'est l'histoire de Messirut Nefesh pour la Torah. Rabbi Akiva, quand il était berger, une fois il a vu que dans un rocher, il y avait un trou. Et il a compris, qui c'est qui a fait le trou dans ce rocher-là? C'est l'eau, ça veut dire une goutte. Il a compris que ce n'est pas une goutte et ce n'est pas 1000 gouttes. C'est des centaines et des millions de gouttes qui ont fait. Donc en fait, d'ici pour nous, on apprend quelque chose. Le changement à l'intérieur de nous, on ne le voit pas tout de suite. Ça prend du temps, le changement. Mais non, Rabbi Israël Salanter, il s'est basé. Beaucoup, lui, son système, c'était quoi? C'est on prend une phrase de Chazal qui nous plaît et on la répète des milliers et des milliers et des milliers de fois jusqu'à ce que ça rentre à l'intérieur de nous. Et pas rien que la lire cette phrase-là, mais la lire avec un regesh, ça veut dire quoi? Avec un sentiment, itpalut. C'est quoi itpalut? C'est comme si que la première fois qu'on l'a lu dans notre vie. Comment il s'est basé? D'où il a inventé cette chose-là? En fait, il s'est basé sur la Gemara. Maseret Yoma, elle raconte comme ça, écoutez bien. Il y avait des Amoraïm, Tanaïm, après il y avait les Amoraïm, okay, où ils rentraient dans le cours de Torah, le Bet HaMidrash. Les gens, ils leur faisaient du kavod. Ils applaudissaient les mains, ils chantaient des chansons pour ces Amoraïm-là. Les Amoraïm, tellement ils ne voulaient pas ce kavod, parce qu'ils savaient que oh, il va avoir, quand on reçoit un compliment, c'est pas bien, ça fait augmenter automatiquement la fierté. Ils ne voulaient pas du tout. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? On leur chantait la chanson, on leur faisait du kavod. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils répétaient une phrase. La phrase, elle disait comme ça, Kilo leolam chosen. Ça veut dire quoi? Cette fierté-là, ce kavod-là, ça ne va pas durer à vie. Ils répétaient. Jusqu'à que ça leur enlevait, ça ne leur donnait pas du tout cette fierté dans le cœur. On apprend une histoire terrible de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on connaît tous l'histoire, mais Sechet Brachot à la fin nous dit comme ça. Rabbi Akiva, Ken, il est mort pourquoi? Parce qu'il enseignait la Torah. Il savait que la Torah, sans la Torah, ce n'est pas une vie pour nous, c'est comme de l'air à respirer pour nous. Il enseignait la Torah, on l'attrapait, les Romains l'ont attrapé, on connaît tous l'histoire, ils l'ont torturé. Et pendant qu'il était en train de torturer, il faisait Kriyat Shema. Ses élèves de Rabbi Akiva lui ont demandé « Atkan ?» Il a dit « Rabbi Akiva, okay, Kol Yamai », ça veut dire toute sa vie, il attendait ce moment-là. Les livres de Moussar, ils nous disent quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? Rabbi Akiva, il savait, le niveau le plus élevé qu'un juif peut arriver, c'est quoi? C'est de mourir Al-Kiddush Hashem. Rabbi Yosef Karo, c'est lui qui a écrit le Shulchan Aruch. Son plus grand souhait, c'était quoi? De mourir Al-Kiddush Hashem. Il n'est pas mort sur Kiddush Hashem, mais c'était son souhait. Rabbi Akiva aussi, il savait que ça, c'est le niveau le plus élevé. On n'arrive pas à comprendre, on n'est pas dans ces madrigotes-là. ils savaient que c'est la chose la plus importante. Pendant qu'ils étaient, les Romains étaient en train de torturer, okay, il était en train de faire Kriyat Shema. Ses élèves, ils lui ont dit, à quel niveau, comment on peut arriver à ce niveau-là, de pendant que quelqu'un nous fait du mal, et lui, Rabbi Akiva, il n'est pas concentré dans le mal, il est concentré, il est en train d'être attaché à Hachem. Comment on peut arriver à ce niveau-là? Rabbi Akiva leur dit, toute sa vie, il attendait ce moment-là. Ça veut dire quoi? Toute sa vie, il espérait ce moment-là. Ça veut dire, il s'imaginait, tout de suite, je vais dire quelque chose qui a rapport avec Chag HaShoah, il s'imaginait qu'on va le tuer sur mourir pour Al-Kiddush Hachem. Il s'imaginait ça des milliers et des milliers et des milliers, des milliers de fois. Puisque imaginer ces choses-là, quand vraiment c'est arrivé, il était déjà prêt. Il était déjà prêt, donc c'était facile pour lui. C'était facile, pourquoi? Parce que c'était difficile, mais dans sa tête, il savait qu'il était en train d'attacher Menachem Hachem, presque il ne faisait pas attention à ces choses-là, parce qu'il s'est préparé dans la tête. J'ai dit tout à l'heure à Yoel, okay, dans ces exercices-là, dans tous les exercices, peu importe dans le domaine que vous voulez, Bezrat Hachem, surtout dans la Torah, dans le Limoud à Torah, dans le Avodat Amidot, changer quelque chose, c'est du travail. C'est pas possible du jour au lendemain de changer, c'est du travail. C'est répété, par exemple, ces textes-là de Moussard, qui se trouvent dans le livre, il y a plein de, ils sont remplis des conseils, c'est de répéter sans arrêt jusqu'à ce que ça rentre à l'intérieur de nous. Et le plus qu'on répète à l'intérieur, une fois que quelqu'un arrive, par exemple, dans le moment de l'épreuve, ça va être facile pour lui, parce qu'il s'est entraîné. Mais quelqu'un, il arrive, par exemple, dans une situation, tout ce qu'il a appris, tout ça, il veut commencer à l'appliquer. Il est dans un essayon, il veut l'appliquer, mais il ne s'est pas préparé. À quoi ça ressemble? Il y a par exemple un soldat. On l'envoie dans la guerre. Un soldat, s'il ne s'est pas entraîné avant, on l'envoie dans aucune guerre. D'abord, il y a des tyronautes. Celui qui a fait l'armée ici, en Israël, il y a tyronautes. C'est quoi tyronautes? On prend des gens qui commencent l'armée, d'abord on les entraîne. 4 mois, 6 mois, 2 ans, ça dépend ce qu'il fait dans l'armée. Mais d'abord on l'entraîne. Une fois qu'on l'a entraîné, on l'envoie dans la guerre. Mais on ne peut pas envoyer quelqu'un sans un entraînement. Il y a quelque chose qui est un outil qu'on a à l'intérieur de nous, très important, maintenant se préparer, Bezrat Hashem, Chag HaShavuot. Chag HaShavuot, on sait tous, c'est Chag, Matan Torah, Kabbalat HaTorah. Oy va'avoy de penser qu'on a la fête de Shavuot en mémoire de ce qui s'est passé il y a 3300 ans qu'on a reçu la Torah. C'est une erreur. Il faut savoir que Chag HaShavuot, Zman Matan Toratenu, dans l'Amida on dit, Zman Matan Toratenu, ça veut dire quoi? C'est le moment qu'on reçoit la Torah. Chaque année, le Ramchal dit, chaque année, dans chaque fête, okay, il y a encore une fois Kabbalat HaTorah. Il y a encore une fois tout ce qui s'est passé à l'époque, le feu, la lumière, le bruit, tout ce qui s'est passé à l'époque, ça revient encore une fois. Et le Ramban, je vais finir avec ça, le Ramban il dit, toute notre vie, il faut sans arrêt se faire des images dans la tête, comment c'était Mahamad Arsinaï, comment c'était Yetziat Mitzrayim, comment c'est arrivé quand ils sont arrivés à la mer Rouge elle s'est ouverte. Tous ces dessins-là qu'on se fait dans la tête, ça nous renforce notre émouna. Et tous les jours, c'est pareil qu'une fois de temps en temps. Le Ramban il dit, toujours, il ne faut jamais arrêter de faire ces images-là dans la tête, parce que ça nous renforce la émouna. Vous connaissez tous l'histoire, je vais finir l'histoire, Agada Shel Pesach. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Il y avait les Chachamim qui étaient réunis à Bnei Brak. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Akiva, ils étaient tous réunis à Bnei Brak. Et ils racontaient toute l'histoire de Leila Seder. Pourquoi? Puisque la Gada elle dit, Chayav Adam Lirot et Tatsmo Kulu Yatsa Mi Mitzrayim. Ça veut dire quoi? Un homme, il a une obligation de s'imaginer comme si il est sorti de Mitzrayim. Alors qu'est-ce qu'il faisait toute la nuit? C'est Tanaïm, on parle des Tanaïm, des gens Kutoshim. Ils connaissaient toute la Torah, tous les commentaires. Ils se répétaient, ils se faisaient une image dans la tête. Ils étaient en train de raconter. Ils savaient chaque seconde qu'est-ce qui s'est passé dans Yetziat Mitzrayim. Ils se faisaient cette image-là dans la tête. Ils étaient en train de la revivre. Donc, et c'est ça, c'est comme ça qu'on peut renforcer l'émouna, Bezrat Hashem, faire comme ça, Bezrat Hashem, des dessins dans la tête. Bezrat Hashem, Bohem Tio. Bezrat Hashem.